Avoir raison avec John Rawls. Alors hier, nous avons vu avec le professeur Alain Boyer l'énorme retentissement qu'a connu la théorie de la justice lors de sa parution aux États-Unis en 1971. Dans cet ouvrage, agencé avec une extrême rigueur, Rawls propose, on l'a dit, un certain nombre de principes. Principes de justice, susceptibles d'après lui de recueillir l'accord de toute personne rationnelle, quelle que soit par ailleurs, eh bien, sa conception du bien, ses croyances et appartenances personnelles, ses projets de vie, et plus intéressant encore, sa place dans la hiérarchie sociale. Mais pour parvenir à cette espèce de formule magique d'une société vraiment juste, articulant l'extension maximale des libertés avec le plus haut degré possible d'égalité sociale compatible avec la prospérité générale, Rawls invite son lecteur à une expérience de pensée. Rejouer le contrat social initial comme l'ont fait avant lui Hobbes, John Locke ou notre Jean-Jacques Rousseau national. Pas plus que ses prédécesseurs, Rawls n'imagine que les membres d'une nation puissent un jour se réunir au sortir d'une espèce d'état de nature afin de fixer les principes de base de leur coopération de manière à ce que celle-ci soit à la fois juste et mutuellement avantageuse. Non, il s'agit en fait d'un modèle idéal de dialogue philosophique grâce auquel nous pourrions estimer les valeurs qui sous-tendent notre propre société et puis éventuellement, bien sûr, la corriger afin qu'elle se rapproche de cet idéal atteignable parce que, dit Rawls, il est raisonnable. Aujourd'hui, je vous propose donc d'entrer dans le vif du sujet. Cette théorie de la justice que Rawls a méditée pendant plus de 10 ans alors qu'il était professeur à Harvard, avant de la livrer au public donc en 71, et qu'il a jugé utile de corriger dans une version remaniée de son fameux livre paru en 1999. Alors,
you'll notice I keep using the phrase political justice and not just justice. This is a conception of political justice, but I will come to that.
France Culture. Avoir raison avec John Rawls, Brice Couturier.
Alors nous allons le faire grâce à vos lumières, Vanessa Nurock, vous êtes au téléphone avec nous, vous êtes maîtresse de conférences en théorie politique et éthique à Paris 8, et vous avez publié dans l'excellente collection Le bien commun chez Michelon, une introduction à l'œuvre de John Rawls qui s'appelle Pour une démocratie juste. Et puis vous êtes avec nous, Jean-Paul Maréchal, avec vous nous verrons les mesures concrètes que préconise Rawls parce qu'elles font l'objet de discussions chez les économistes. Nos auditeurs vous connaissent bien en tant qu'expert de la Chine, mais vous avez aussi écrit sur Rawls, vous êtes économiste, maître de conférences à Paris-Saclay. Alors, première question, est-ce que Vanessa Nurock nous entend? Première question pour Vanessa Nurock. Comment, dans la position originelle, telle que la conçoit John Rawls, pourrions-nous parvenir à une espèce d'accord sur les meilleurs principes possibles d'organisation de la société, alors que nous divergeons sur à peu près tout, et de plus en plus d'ailleurs, dans nos sociétés libérales, modernes et diversifiées?
C'est une excellente question. Alors déjà, il faut dire que la position originale chez John Rawls, évidemment, c'est pas une position réelle. C'est une hypothèse, et une hypothèse heuristique, qui est rendue nécessaire, effectivement, comme vous l'avez dit, par un point de départ qui est le pluralisme raisonnable. En effet, dans une société démocratique, il y a une diversité de doctrines raisonnables qui vont être religieuses, morales, philosophiques, etc. Et donc la question, c'est de savoir comment spécifier les termes de la coopération afin que ces termes puissent être librement choisis par tous les contractants. Et on a là donc une justice qui est une justice procédurale. Alors la position originale, c'est une expérience de pensée que chacun de nous peut faire. Alors si vous êtes en train de faire la cuisine, là, il est midi, vous pouvez la faire dans votre cuisine. Si vous êtes dans votre voiture, vous pouvez la faire dans votre voiture. Et si vous êtes dans le studio de radio, vous pouvez le faire dans le studio de radio, mais vous pouvez le faire à condition d'être dans une certaine situation qui est assez répandue, qu'est ce qu'on appelle les circonstances de la justice et qui est un grand classique en philosophie. Alors tout d'abord, faut pas, j'ai envie de dire, être un saint ou une sainte. C'est-à-dire que, évidemment, il faut vouloir coopérer. Alors ça, la sainte voudra le faire, mais il faut aussi être capable d'avoir des intérêts personnels et donc d'être motivé aussi personnellement par vos intérêts à vouloir coopérer. Et puis, deuxièmement, il faut être dans une situation médiane, c'est-à-dire qu'on n'a pas une pléthore de biens ni une extrême rareté des biens. C'est ce qu'on appelle depuis Hume en gros les circonstances de la justice. Et dans ces cas-là, on va vouloir coopérer, donc se mettre d'accord.
Oui,
et le
pluralisme
raisonnable, donc cette diversité est tout à fait un atout.
Je vous interromps sur un premier point. Vous venez de nous dire qu'il faut que dans cette société, il n'y ait pas rareté totale ni totale abondance. Il faut qu'il y ait, donc autrement dit, le système de Rawls ne s'applique en réalité qu'à nos sociétés, à nous. Pas aux sociétés les plus pauvres, ni à l'idéal, l'utopie qui serait une société d'abondance totale où il y aurait tout à foison. Hein, donc ça ne concerne pas toutes les sociétés possibles, le système de Rawls, mais en gros la nôtre, quoi.
Absolument. En fait, il y a trois restrictions à la théorie de la justice. La première restriction, c'est qu'elle s'applique aux sociétés démocratiques occidentales et aux sociétés réelles. Les sociétés d'extrême abondance, malheureusement, on les connaît pas pour le moment. Par contre, les situations d'extrême pauvreté, elles existent. Et Rawls est tout à fait réaliste. Il se doute que dans ces cas-là, les conditions de la justice ne sont pas forcément réunies et proposer la position originale même comme une expérience de pensée, c'est quelque chose qui serait complètement utopique.
Alors, vous nous parlez à l'instant d'une cette position originelle dans laquelle vous disiez à l'instant les intérêts personnels, nous aurions des intérêts personnels à vouloir coopérer. Mais une des caractéristiques, et peut-être des choses les plus étonnantes et les plus intéressantes et originales dans la théorie de Rawls, c'est ce qu'il appelle le voile d'ignorance. Il est censé, ce voile, nous dissimuler non seulement notre propre place dans la future hiérarchie sociale telle qu'il est en train de l'imaginer, et que nous sommes en train de l'imaginer dans notre cuisine ou dans notre studio, comme vous le disiez, mais jusqu'à nos propres compétences et qualités, et même nos projets de vie, nous devons les ignorer. Alors, est-ce que c'est pas pousser un peu loin l'abstraction? Est-ce que ce sont réellement des personnes de chair et de sang qui participent à cette discussion philosophique sur la meilleure des sociétés possibles? Ou est-ce que c'est, comme on l'a dit parfois, des ectoplasmes, puisqu'ils n'ont à l'origine ni intérêt, ni compétence, ni connaissance exacte de la place qu'ils occuperont dans la société?
Alors, oui, c'est délicat, je suis assez d'accord avec vous. C'est pas si évident. Alors, première chose, et peut-être qu'on reviendra dessus après, ce que nous dit Rawls, c'est que pour vouloir coopérer, il faut être doué d'un sens de la justice. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Il y a une dimension psychologique à la position originelle. Et donc, effectivement, le voile d'ignorance va être un voile qui sépare ce qu'on connaît de ce qu'on ignore, puisque l'originalité de Rawls, c'est de nous proposer une situation où on est, en quelque sorte, des amnésiques temporaires volontaires. Si vous voulez, c'est un peu comme quand on va au théâtre ou au cinéma, on nous demande d'éteindre notre portable. C'est-à-dire qu'on nous demande de nous déconnecter de certaines choses.
Donc, en fait, on
est... Là, il va nous demander de...
Oui,
non, non,
oui,
allez-y,
oui.
Je vous en prie.
Non. Donc c'est une situation, le voile d'ignorance, c'est une situation dans laquelle nous ignorons quelle sera notre place dans la société telle que nous sommes en train de la définir, parce que comme ça, nous n'allons pas projeter nos intérêts du moment sur cette délibération. Nous allons raisonner de manière purement abstraite, comme si, et c'est surtout ça qui est intéressant chez Rawls, comme si nous risquions fort d'être parmi les plus défavorisés de cette société nouvelle que nous sommes en train de projeter. C'est ça.
Absolument, et ça répond un peu à votre question de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a des intérêts, mais on ne sait pas lesquels ils sont. Donc on a une connaissance de la psychologie morale, ça fait partie des choses qu'on ne va pas oublier, qu'on ne va pas déconnecter sous le voile d'ignorance, mais on ne sait pas où on se trouve dans la société. Pourquoi ? Parce que, nous dit Rawls, il faut que nous soyons capables d'être symétriques,
ça veut dire
qu'on
quoi,
puisse se mettre à la place des autres.
Ouais.
Faut qu'on puisse se mettre à la place des autres sous le voile d'ignorance, mais on n'est pas interchangeable. Et ça, c'est une des grandes différences avec l'utilitarisme auquel s'oppose Rawls à de nombreux égards, comme je sais que vous l'avez évoqué hier avec Monsieur Boyer. Et donc, il faut pouvoir être symétrique, nous mettre à la place des autres. Mais je sais que je suis pas identique à mon voisin, donc je sais que j'aurai une autre place dans la société. Et du coup, il faut que même la pire place dans la société me semble acceptable, ce qui est quand même assez fou si on y pense. Donc du coup, c'est en quelque sorte en fonction de la pire place dans la société qu'on va décider des principes.
Alors précisément, Jean-Paul Maréchal, la question du maximin, le maximum du minimum possible, il tourne le dos à l'utilitarisme, vient de nous dire Vanessa Nurock, Rawls, qui préconisait de retenir en toutes circonstances la décision politique qui procurerait le plus grand niveau de satisfaction au plus grand nombre de gens. Lui, Rawls, il préconise donc cette règle du maximin, maximum minimorum en latin, c'est-à-dire que parmi toutes les mauvaises solutions possibles, il faut choisir la moins mauvaise de toutes. Alors que dans l'utilitarisme, au contraire, on cherchait la meilleure des hypothèses possibles. Pourquoi c'est quoi? C'est du misérabilisme?
Non, je crois que, en fait, c'est ce que disait déjà notre interlocutrice, c'est que, effectivement, il faut bien resituer les choses. C'est-à-dire que John Rawls, lui, s'oppose à l'utilitarisme. Pourquoi est-ce qu'il s'oppose à l'utilitarisme? Parce que, en fait, il montre que le bonheur pour le plus grand nombre peut s'accompagner du plus grand malheur pour le plus petit nombre. Donc, c'est toute la dimension sacrificielle, en fait, de l'utilitarisme auquel Rawls s'oppose. Et de ce point de vue-là, il a effectivement tout à fait raison. Et je ne sais pas si on peut avoir raison ou tort avec Rawls, dans la mesure où, finalement, Rawls, c'est pas un auteur qui va nous donner une lecture de la société d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est plus, comme il était dit à l'instant, une expérience de pensée. Reste que, comme le disait un philosophe qui s'appelle Nozick, finalement aujourd'hui, on doit se prononcer, quand on travaille sur les questions de philosophie politique, est-ce qu'on est dans le cadre ouvert par Rawls, ou est-ce qu'on n'y est pas, et pourquoi on n'y est pas. Donc c'est pour ça que c'est un auteur qui est extrêmement intéressant et extrêmement important. Bon, alors maintenant effectivement, le maximin renvoie au principe de différence, c'est-à-dire qu'en fait, il explique qu'il faut privilégier une situation où le pire des états possibles dans lequel peut se trouver un individu doit être quand même moins mauvais que le pire des états possibles dans toutes les autres situations alternatives. Voilà. Donc, c'est cette idée donc qui est à la base du principe de différence, qui pose évidemment beaucoup de problèmes, parce que si vous le traduisez, ça veut dire que finalement, on peut accepter les objectifs des personnes les plus favorisées pour peu qu'elles améliorent la situation des plus défavorisées. Mais à ce compte-là, évidemment, on peut aboutir à des inégalités qui sont extrêmement importantes. Et dans un texte, en fait, il explique, Rawls, il dit, nous n'augmenterons les attentes des plus favorisés que dans la mesure nécessaire pour améliorer la situation des plus défavorisés. Et ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est que il explique que finalement les mieux placés vont adhérer au principe de différence que dans la mesure où celui-ci leur permet d'accroître leur niveau de bien-être. Et donc là, vous voyez, on a besoin donc de les motiver, mais si on a besoin de motiver les plus favorisés, ça veut bien dire qu'ils adhèrent pas au principe de différence, parce que sinon on n'aurait pas besoin de les motiver, ils y attireraient. Bon, donc là il y a une espèce comme ça de contradiction avec ce dans la thèse de Rawls à propos de ce principe de différence.
Ah, précisément, je voulais venir à cette idée-là, mais c'est une question pour Vanessa Nurock. Catherine Audard, qui sera avec nous demain, qui est donc la traductrice de tous les écrits de Rawls et qui connaît très très bien cette œuvre. Elle écrit que la position originelle, ce qu'on vient de décrire, hein, on se réunit dans une position comme si on était loin de la Terre et qu'on essayait de décider de quelque chose qui nous concernerait tous. Dans la position originelle, elle permet de concilier, dit Catherine Audard, donc, ce qu'elle appelle une rationalité prudentielle. Alors je traduis, c'est nous cherchons à défendre nos intérêts tout en les ignorant, à cause du voile d'ignorance. Et une rationalité éthique. Et c'est ce que vous venez de dire, en fait, Jean-Paul Maréchal. Parce que nous sommes des êtres sociaux et que nous sommes, dit Rawls, dotés de sympathie pour nos semblables. Alors on a l'impression que Rawls, en fait, il joue sans cesse sur les deux tableaux. Celui de l'intérêt bien compris et celui du devoir moral. C'est Adam Smith plus Emmanuel Kant. Mais vous-même, Vanessa Nurock, vous écrivez dans votre livre « Pour une démocratie juste » que Rawls mène une réflexion sur les faits et une autre sur les normes. Il mêle donc le descriptif et le prescriptif, ce qui est et ce qui devrait être. Alors en quoi son système, parce que c'est ce que vous dites Vanessa Nurock, en quoi son système de pensée parvient à faire jouer ensemble et non pas séparément ces deux éléments contradictoires, réflexion sur les faits, réflexion sur les normes?
Alors merci beaucoup pour cette question, parce que je trouve que c'est vraiment un point fondamental dans la pensée de Rawls, et c'est une des choses qui me semblent les plus motivantes quand on lit Rawls. La distinction entre les normes et les faits, c'est quelque chose qui remonte en gros à David Hume, avec l'idée que ce qui est n'est pas ce qui doit être, et donc il y a un fossé entre les normes et les faits. Et ce que montre Rawls, c'est qu'il faut tenir ensemble les normes et les faits, le souhaitable et le faisable, et sa question de départ, en fait, c'est dans quelle mesure est-il possible d'approcher la perfection démocratique, donc le souhaitable, dans le monde tel que nous le connaissons, donc le faisable. Donc vous voyez, il y a vraiment un désir d'articuler ensemble le souhaitable et le faisable, la théorie et la pratique. Et la manière dont Rawls va le faire, c'est en proposant notamment sa théorie de l'équilibre réfléchi, qui est la méthode qui va permettre de garantir la stabilité politique grâce à l'adhésion de ses membres. Et donc d'expliquer les principes sous-tendant nos jugements moraux, en fait de rendre raison, pour faire écho au titre de votre émission, rendre raison des principes grâce à l'équilibre réfléchi, qui est une méthode tout à fait originale et qui permet d'ajuster ensemble les théories et les pratiques.
Jean-Paul Maréchal, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette idée de position originale et de voile d'ignorance, cette idée que nous serions coupés de nos réalités sociologiques pour un temps, y compris de notre propre qualité, de nos propres projets de vie, de notre propre idéologie, et puis surtout de nos appartenances, parce qu'aujourd'hui, la démocratie est largement soumise à la question des identités. Et comment est-il envisageable que nous nous soustrayons à ces appartenances, à ces idéologies, pour discuter entre nous de manière purement rationnelle? Est-ce que ça vous paraît convaincant?
Sur le plan théorique, ça peut être effectivement, comme vient de l'expliquer Vanessa Murock, c'est tout à fait convaincant sur le plan des idées. Sauf que, évidemment, ça se passe jamais comme ça en démocratie. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans un endroit donné avec, comme le dit Walzer, des significations partagées, des représentations qu'on a en commun. Et moi, je pense que pour faire évoluer les choses, si on veut être un réformateur social, ce qu'il faut, c'est partir des significations partagées. Bon. Et que de ce point de vue-là, la notion de voile d'ignorance est quelque chose qui, effectivement, encore une fois, est une expérience de pensée, mais à laquelle, naturellement, personne ne se livre. Pourquoi? Parce que la démocratie, le vote, est aussi conditionné par des intérêts. Et donc, là, au lieu d'essayer de définir, comme le fait Walzer, par exemple, un peu la maison dans laquelle on voudrait habiter, son décor, etc., là, on a un peu l'impression, si vous voulez, qu'on essaye d'aménager un vaisseau spatial, quoi, avec des gens qui se méfient les uns des autres, d'où le principe de différence et la solution du maximin. Donc, moi, j'aurais un peu tendance à dire que, de ce point de vue-là, la thèse de Rawls, c'est fait pour des astronautes paranoïaques. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous êtes dans 2001, l'Odyssée de l'espace, ou dans Ad Astra, vous vous méfiez les uns des autres, et vous dites que finalement, il faut ces trois principes. Mais, en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Et je pense que l'une des faiblesses de la thèse de Rawls, c'est comme le dit très bien Ricoeur, c'est qu'en fait il nous enferme dans un choix. C'est-à-dire, soit vous êtes utilitariste, soit vous adoptez mes trois principes et l'ordre de priorité de l'un sur l'autre. Mais en réalité, dans la contingence historique, personne, évidemment, ne fait abstraction. Et indépendamment des approches culturalistes ou des approches identitaires, je veux dire, vous avez des intérêts divergents. Et le propre de la démocratie, c'est d'essayer de dépasser, en fait, ces intérêts divergents dans un projet commun, mais qui ne peut pas se réduire à un simple squelette de trois principes avec un ordre lexical.
Vous venez de citer Paul Ricoeur, Jean-Paul Maréchal, et je vais le citer à mon tour. En fait, je le cite dans une citation de vous, dans un article que vous avez écrit. Ricoeur dit de Rawls, « Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que nous avons là un argument éthique déguisé en argument technique emprunté à la théorie de la décision. » Alors, la méthode de Rawls n'est donc pas strictement procédurale, hein, puisque quelque part, elle n'est donc pas moralement neutre, puisqu'on a l'impression parfois que Rawls prend son lecteur par la main pour l'emmener là où il a choisi de le conduire, c'est-à-dire vers ces fameux principes qui sont deux, mais en réalité trois, comme on l'a déjà dit hier. On aura peut-être les rappeler d'ailleurs, parce que les auditeurs ne sont pas forcément ceux qu'on avait hier. Et cela a des conséquences économiques directes qu'on verra avec vous tout à l'heure. Mais qu'en pensez-vous vous-même, Vanessa Murock, vous qui défendez Rawls ici, quand je dis qu'il prend son lecteur par la main, est-ce que vous avez le sentiment que c'est le cas ou pas? Est-ce qu'encore une fois, est-ce qu'il y a un mélange de l'éthique et du normatif, et dans quelle mesure?
Alors, bon, déjà, moi, si je défends Rawls ici, ma position est un peu compliquée, puisque, comme je vous l'ai dit, quand vous m'avez invité à l'émission, moi, je chemine avec Rawls.
Mais vous n'êtes pas une Rawlsienne de stricte obédience.
Oui et non. Donc, je suis profondément rawlsienne, mais c'est vrai, et je pense que Rawls ouvre la possibilité d'être rawlsienne sans être de stricte obédience, comme vous le dites, parce qu'il a une théorie qui est ouverte. Et donc, je serais pas tout à fait d'accord, mais c'est l'intérêt de la discussion avec Monsieur Maréchal. Il me semble que Rawls nous présente les principes. Il veut évidemment nous en convaincre, et c'est assez fascinant, parce que dans la procédure, il va proposer d'ailleurs une liste imaginaire aux contractants avec 5 théories différentes pour défendre son champion qui est la justice comme équité. Donc il y a effectivement cette manière de prendre le lecteur par la main, mais en même temps il reste ouvert à la critique, aux critiques. Il n'a de cesse de retravailler sa théorie, et il me semble que ce qu'il apporte vraiment à la discussion, c'est l'idée, notamment avec le principe de différence, qu'il faut faire attention aux plus vulnérables, que les plus vulnérables sont l'indicateur de la bonne santé de nos démocraties, mais que cela ne doit pas entraîner un nivellement vers le bas. Il a des réflexions notamment très intéressantes sur la manière dont il faut faire fructifier nos dons naturels aussi, parce que ça bénéficie à l'ensemble de la société. Donc oui, il y a une articulation ici du politique et de l'éthique, sans conteste, mais c'est quelque chose qui me semble extrêmement positif, notamment dans nos sociétés contemporaines. Donc évidemment, l'expérience de pensée reste une expérience de pensée. Je crois que personne ne se fait la moindre illusion là-dessus. Les principes sont présentés de manière assez schématique, et c'est volontaire chez Rawls. Mais je pense que ce qu'on peut en retenir, c'est cette articulation entre, d'un côté, l'importance accordée aux plus vulnérables. Et là, dans le contexte du Covid, on a vu à quel point c'était une chose qui pouvait être importante et essentielle. Mais que cette importance accordée à la position des plus vulnérables, parce qu'on peut tous se retrouver à être dans la plus mauvaise situation, même dans nos sociétés contemporaines, est quelque chose de tout à fait fondamental. Donc l'articulation entre l'éthique et le politique me semble éminemment souhaitable, a fortiori aujourd'hui, et éminemment d'actualité.
Jean-Paul Maréchal.
Oui, alors je voudrais surtout pas là qu'on s'enferme dans des rôles. Il y a quelqu'un qui défend Rawls et quelqu'un qui le critique. D'abord parce que j'aime beaucoup la lecture de Rawls, qui m'a aussi beaucoup apporté. Donc je veux pas non plus qu'il y ait de mécompréhension par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein.
Le vaisseau spatial, c'est pas très gentil.
C'est pas très gentil, mais enfin c'est pas très méchant non plus. Enfin voilà, parce que effectivement, d'abord je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit sur le principe de différence, mais quand même, je veux dire, il faut faire attention, parce que ce que disait Vanessa Murock, c'est de dire voilà, il attire notre attention sur la situation des plus fragiles. Oui, mais je veux dire, on n'a pas besoin de 660 pages pour ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous allez trouver chez des économistes comme Galbraith dans les années 60, et c'est quelque chose qui parcourt en réalité l'histoire de la pensée économique depuis Adam Smith, c'est-à-dire depuis 1776. Et on pourrait même remonter un tout petit peu avant avec les physiocrates, où finalement, qu'est-ce qui fait que François Quesnay, qui est chirurgien, va s'intéresser à l'économie? C'est parce qu'il trouve bizarre que dans un royaume agricole, il y a des gens qui souffrent de disette. Donc c'est ça, moi, que je trouve toujours un peu curieux dans l'époque contemporaine, c'est ces espèces de détours de production absolument incroyables, comme on dit en économie, pour arriver à la conclusion que c'est drôlement important de s'occuper des plus défavorisés. Vous dites oui, mais ça remonte avant même la création de l'économie politique, ça remonte à la Bible. Moi je trouve que là il y a vraiment tout un arsenal théorique qui est mobilisé. Si c'est pour arriver au fait qu'il faut faire attention parce que le sort qu'on réserve aux plus pauvres est la pierre de touche qui nous permet de juger éthiquement une société, je pense qu'on n'a pas besoin de Rawls pour en arriver à cette conclusion.
Oui, mais enfin, quand même, ce qui est original chez Rawls, et là je vais m'en faire son défenseur, c'est l'articulation entre les deux principes. C'est le principe d'un système de libertés égales pour tous, qui soit aussi étendu que possible, à condition d'être accessible à tous les autres, un principe libéral, et un principe social, socialisant, qui est le principe de différence, enfin qu'il appelle le principe de différence, mais qui est l'idée que on doit juger nos sociétés à partir de l'intérêt des plus défavorisés. Et il articule les deux, non? C'est quand même ça la grande force de Rawls.
Oui, c'est, en fait, il les articule. Il fait un ordre, il établit un ordre de priorité entre le principe d'égale liberté, le principe d'égalité équitable des chances et le principe de différence. Et donc, non mais tout ça est extrêmement intéressant. Enfin, là encore, enfin, je veux dire, il ne s'agit pas du tout de nier l'intérêt de la pensée de Rawls. Ce que, simplement, je voulais dire, c'était qu'à propos du sort réservé aux plus défavorisés, Rawls ne fait, et ça, c'est peut-être ça finalement l'intérêt de sa théorie, c'est de donner une espèce de cadre très très analytique à l'articulation entre différents principes. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on va d'abord satisfaire le principe d'égale liberté, puis celui d'égalité équitable des chances, et enfin de différence. Et pourquoi est-ce qu'à un moment, en tout cas, le Rawls était un peu la coqueluche des économistes qui travaillaient sur ces questions? C'est parce qu'il y a un peu l'idée, si vous voulez, d'optimisation sous contrainte. Vous voyez, donc en fait, ça rappelle aux économistes tout un mode de raisonnement qui est au total très micro-économique. Et je pense que beaucoup de mes collègues ont retrouvé dans une approche philosophique, et ça c'est assez courant dans la philosophie américaine, quelque chose qui leur rappelait en fait des raisonnements économiques. Et là c'est pas du tout une critique, ça explique aussi pourquoi Rawls a rencontré un certain succès chez les économistes. Et puis, sans du tout abuser du temps de parole, ce qu'il faut dire c'est que l'importance de Rawls vient justement d'avoir réintroduit, comme le disait Vanessa Murock tout à l'heure, les questions éthiques dans une analyse politique qui, en réalité, s'en était séparée. Pourquoi ? Parce que les marxistes, par exemple, s'intéressent pas à l'éthique économique. Et puis, de l'autre, les keynésiens pensaient qu'avec un pilotage fin de la croissance, on n'avait pas vraiment besoin d'une réflexion éthique. Tout comme les questions d'éthique en relations internationales, et Walzer le montre très bien, sont revenues à l'ordre du jour au moment de la guerre du Vietnam. Donc, voilà pourquoi il faut évidemment lire Rawls et le resituer dans ce contexte à la fois historique et analytique particulier.
Et Vanessa Murock, est-ce que précisément, alors là j'avais dit hier, il y a une floraison de nouveaux livres consacrés à Rawls alors qu'il est mort depuis 18 ans si ma mémoire est bonne. Est-ce que c'est pas précisément parce que les questions éthiques sont en train de revenir au premier plan de nos réflexions alors que pendant tant d'années on n'avait qu'un seul objectif finalement en politique, c'était la croissance. Et là on est en train de réfléchir à d'autres modes d'organisation qui sur l'organisation de la société, sur la meilleure distribution possible d'une production qui se raréfie, après tout, pour ne serait-ce que pour des raisons de Covid. Est-ce que c'est pas ça qui fait que Rawls est en train de revenir, il y a un comeback de Rawls visiblement dans la pensée contemporaine, une actualité de Rawls?
Alors je sais pas si oui, il y a clairement une actualité de Rawls et une actualité de l'éthique en politique. Et ce point, il me semble tout à fait fondamental, mais j'irai même plus loin que vous. Je trouve que c'est un faux procès de lui dire que ce qu'il raconte a déjà été dit d'autres manières. Oui, bien sûr, que ce soit d'ailleurs sur l'équilibre réfléchi dont je parlais tout à l'heure. Il s'inspire, par exemple, de Nelson Goodman. Mais il fait quand même une somme et une articulation de tout ça qui est extrêmement originale, et notamment de nos trois principes fondateurs de la société française, la République française, liberté, égalité, fraternité. Faut quand même le dire aujourd'hui, 14 juillet, ça me semble fondamental. Mais Rawls, il nous permet de réfléchir à des choses extrêmement problématiques dans le contexte du Covid, d'une part, hein, je l'évoquais tout à l'heure et vous l'avez rappelé, mais par exemple, moi, je travaille beaucoup sur les questions liées aux nouvelles technologies, à l'intelligence artificielle. La question, par exemple, de savoir si on pourrait élaborer des programmes moraux, des codes moraux, on peut y réfléchir avec Rawls.
Ben, je vous remercie.
Par exemple,
beaucoup.
Il donne des principes.
Oui.
Mais on ne peut pas les implémenter dans un ordinateur parce qu'il faut être motivé à agir moralement et ce point, il est fondamental, c'est l'articulation de l'éthique et du politique.
Je vous remercie Vanessa Murock. Vous voyez que grâce à vous, on réalise que même longtemps après sa mort, John Rawls peut nous aider à penser notre actualité. Je rappelle le titre du livre que vous avez consacré à John Rawls, c'était Rawls pour une démocratie juste au bien commun chez Michelon. Jean-Paul Maréchal, votre dernier ouvrage, c'est Éthique et économie, une opposition artificielle. C'est paru aux presses universitaires de Rennes. Et puis, la réalisation aujourd'hui, c'était Nicolas Berger. Ça sera toute la semaine Nicolas Berger. Assistante de production, Karine Amar. À la technique, Nasser Moussaoui.